Le 10 juillet 1960, il pleut dru sur le Parc des Princes. La pelouse est grasse pour la finale de cette toute première Coupe d'Europe des Nations. C'est du football. Les deux pays qui vont s'affronter à la périphérie de Paris n'existent plus aujourd'hui. D'un côté, l'Union soviétique de Nikita Khrouchtchev. De l'autre, la Yougoslavie du maréchal Tito. Pour sa première édition, donc, cette nouvelle compétition de football international n'attire pas les foules. En vérité, il n'y a que 18 000 spectateurs ce soir-là en tribune. Et pourtant, c'est un match crucial sur le plan géopolitique. Alors que la finale de l'Euro 2020 aurait dû avoir lieu ce week-end au stade de Wembley à Londres, eh bien voici l'histoire compensatoire. L'idée même de créer une compétition de football entre les nations européennes date de l'entre-deux-guerres. C'est un Français qui portait ce projet. Il s'appelait Henri Delaunay, ancien arbitre, devenu dirigeant sportif, avec moustache, costume trois pièces et col de chemise anglais. Ce notable de la Troisième République meurt en 1955, juste avant de voir son ambition se concrétiser. Cela dit, au départ, hormis la France, les grands pays de l'Europe de l'Ouest, sceptiques, refusent d'y participer. Et pour cet Euro 1960, ni l'Italie, ni l'Angleterre, ni les Pays-Bas, ni la Belgique, ni même la RFA, toujours en quête de légitimité, ne s'inscrivent à ce tournoi de la reconstruction européenne. 16 nations, néanmoins, participent à cette première compétition. Armée de Raymond Coppa et Juste Fontaine, la France a tenté de jouer sa carte, mais après un match épique, les Bleus ont été éliminés en demi-finale par les Plavi yougoslaves au stade Vélodrome à Marseille. Arrive alors cette finale de l'Euro 1960, un match qui se tient porte d'Auteuil.
À Paris, en nocturne, match d'arrière-saison au Parc des Princes entre l'Union soviétique, maillot foncé, et la Yougoslavie. Les deux équipes jouent la finale de la Coupe d'Europe des Nations, finale impitoyable où les joueurs se livrent à une lutte farouche, comme s'il y allait du sort de leur pays. Dans cette rude empoignade, les gardiens de but effectuent des arrêts extraordinaires, surtout le goal soviétique qui achète. Pendant de nombreuses minutes encore, puisqu'il faut jouer la prolongation, se poursuit sous la pluie cette gigantesque bataille de deux équipes qui veulent gagner à tout prix. Et tout aussi accrocheur, tout aussi chevelu que Roger Marsh, l'intérieur gauche soviétique donne des frissons au goal yougoslave. De toute façon, il en aura encore des frissons à la 113e minute du match lorsque les soviétiques vont marquer le but de la victoire. C'est surtout du dépit qu'ils manifestent alors que les Russes sont tout à la joie d'être les premiers champions d'Europe.
Les soviétiques ont donc gagné 2-1 contre les Yougoslaves. Un match entre deux pays frères, entre communistes, pourrait-on penser. Or, la réalité fut bien plus subtile que ça. On l'oublie souvent, mais la Yougoslavie n'appartenait pas au bloc de l'Est. Non, en 1948, Tito et Staline se sont violemment affrontés jusqu'à la rupture, poussant le maréchal Tito à participer à la création d'un mouvement, celui des pays dits non alignés, comprenait ni pro-américain ni pro-soviétique, une troisième voie en quelque sorte. Cela dit, en 1955, 2 ans après la mort de Staline, Khrouchtchev a entrepris un rapprochement avec le maréchal Tito. Et en 1960, au moment de cette Coupe d'Europe des Nations, les deux pays ont des rapports plus cordiaux, mais il n'en demeure pas moins que le modèle yougoslave exaspère Moscou. Il ne faudrait pas que d'autres pays satellites prennent leurs aises à l'égard du grand frère. Alors, à travers ce match à la portée mondiale, à travers cette finale jouée au cœur d'un pays du bloc de l'Ouest, la France, il était essentiel pour les Russes d'asseoir la supériorité du modèle soviétique, histoire de rappeler, à travers le football, que le peuple russe incarne la révolution prolétarienne. Sa légitimité doit être incontestable et incontesté. Pour ça, ils ont un héros sur mesure, un joueur extraordinaire et pas forcément celui qu'on croit, car en URSS, tout est différent.
En URSS, ce ne sont pas les attaquants qui sont mis en avant dans la presse, dans les différents médias. Ce sont les gardiens de but. Pourquoi ? Parce que le gardien de but est associé au garde-frontière, au dernier rempart, à celui qui défend la patrie jusqu'au bout de ses forces.
À partir de 1960, Lev Yashin, surnommé l'araignée noire, est ce héros tant attendu. Exceptionnel gardien, il est considéré comme le meilleur du monde. Il est érigé en défenseur de la patrie et devient le symbole du sportif modèle, héros de la guerre froide.
Lev Yashin, né à Moscou en 1929, à lui seul, il est une propagande soviétique. Fils d'ouvrier, il n'a connu que l'usine de Tushino et son équipe de football. Mais avant cela, il y a eu la grande guerre patriotique contre le nazisme. Lev Yashin travaillait à la chaîne, aux côtés de son père, dans des conditions très dures. « Mon enfance s'est arrêtée à 11 ans », dira-t-il. « Nous attendions en ligne pour avoir un morceau de sucre. Nous rêvions tout à la fois de la victoire sur le front et d'un petit morceau de sucre. J'ai dû faire des sacrifices à un âge où on ne devrait pas avoir à en faire. L'enfance de Lev Yashin, c'est la misère. »
Effectivement, il perd sa mère assez jeune. Son père est un ouvrier, donc c'est vraiment une espèce de dire presque une caricature du sportif prolétaire. Les Allemands envahissent l'Union soviétique, trahissent le pacte signé entre Hitler et Staline en 39. Et Yashin, comme son père, qui travaille aux usines d'Octobre Rouge, bouge, entre guillemets, vers l'Est, puisqu'il faut protéger ces usines qui sont stratégiques. Et il se retrouve en Sibérie. Et là, il commence à jouer au football. Il aurait aimé être attaquant, mais comme c'est un adolescent qui est déjà grand pour son âge, eh bien, on va le faire jouer dans les buts.
Lev Yashin sort de la Seconde Guerre mondiale fracassé. C'est un gamin dépressif. Il trouve le salut dans l'armée rouge, où il se met au sport et très vite, ses aptitudes physiques éclatent au grand jour. Mais au départ, il hésite entre le ballon rond et le palet noir, car Lev Yashin se révèle être un excellent joueur de hockey sur glace, où il garde férocement les buts du Dynamo Moscou, le club de la police politique. Au final, Yashin choisit le gazon des terrains de football où il devient gardien de ligne de but, comme le soldat sur sa ligne de front. Un poste à part en URSS, comme nous le rappelle l'écrivain Olivier Guèze.
À partir des années 20, des années 30, le gardien va correspondre un petit peu à la sentinelle de l'Union soviétique de Staline. Puisqu'on joue énormément, à la fois il y a un sentiment de paranoïa qui est entretenu par les autorités soviétiques, les fascistes, les capitalistes, les impérialistes veulent remettre la main sur l'Union soviétique, et par ailleurs, effectivement, plus le temps passe dans les années 30 et plus les menaces de guerre se précisent, et ce gardien de but va devenir un petit peu le symbole du défenseur de la patrie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'art soviétique, le réalisme socialiste des années 30, on va retrouver à plusieurs reprises la figure du gardien, dans des sculptures, mais également des peintures, notamment d'un peintre qui s'appelle Danejka, qui est l'un des maîtres du réalisme socialiste, dont on peut admirer l'étoile à Moscou encore aujourd'hui, et qui représente plusieurs fois les gardiens. Il y a des films aussi, il y a des romans autour du gardien.
Lorsqu'arrive cette finale de Coupe d'Europe des Nations au Parc des Princes, le 10 juillet 1960, Lev Yashin est déjà une vedette mondiale. Sa notoriété a largement dépassé le rideau de fer, notamment parce que les Soviétiques ont décroché la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Melbourne en 1956. Et dans le monde entier, on connaît l'immense talent de cet homme surnommé l'araignée noire. À la mi-temps de cette finale, la Yougoslavie, non aligné sur le Kremlin, menait 1-0. Et on raconte que dans le vestiaire, le charisme de Lev Yashin a opéré. Il a exhorté les troupes à la révolte. Il leur a promis que plus aucun ballon ne franchirait sa ligne. Ses arrêts face au coup franc magnifique de Kostic le prouveront en seconde période. En échange de quoi, les camarades de Yashin devaient marquer au moins 2 buts. Ce fut chose faite dans les prolongations. Et c'est ainsi qu'en pleine guerre froide, les footballeurs soviétiques devenaient champions d'Europe sous le regard médusé de toute la presse occidentale. Un coup d'éclat. Les joueurs russes n'ont pas été autorisés à fêter leur victoire dans Paris. Ils ont dû rejoindre illico la mère patrie, où ils ont été accueillis en héros du peuple au stade central Lénine de Moscou, devant 100 000 spectateurs. Imaginez la grand-messe. Yachin est devenu le plus grand gardien du monde. Et en 1963, il a même décroché le Ballon d'Or, récompense qui couronne chaque année le meilleur footballeur sur le continent européen. Il faut savoir qu'à ce jour, aucun autre gardien de but n'a obtenu ce trophée prestigieux. Ce héros soviétique a réinventé son poste, indépassable, indémodable Yachin. Sa carrière de footballeur s'arrête en 1971. Son jubilé rassemble alors à Moscou toutes les stars mondiales du football de l'époque. Bobby Charlton, Gerd Müller ou encore le bulgare Bonev. Et puis ensuite, rideau. La vie de Lev Yachin semble suivre les soubresauts de l'URSS. Comme si son destin à lui était lié à celui de son pays. Après une longue déchéance, amputé d'une jambe et victime d'un cancer de l'estomac, dans un pays qui crève la faim, c'est quand même quelque chose, il meurt chez lui, pauvre, en mars 1990, quelques mois seulement après la chute du mur de Berlin. Il s'éteint donc avec le bloc de l'Est. Lev Yachin, 1929-1990, gardien de but et homo soviéticus.